Les médias, pour moi, c'est des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, des micros.
Interclasse.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Interclasse jusqu'à 21h. Bonsoir à tous. C'est l'émission de France Inter réalisée par des élèves de différents établissements de la région parisienne et de Paris. Ce sont eux qui ont choisi les sujets de reportage. Ce sont eux qui les ont réalisés et en partie montés. Ils ont expérimenté le métier de journaliste, compris ses difficultés, mesuré ses enjeux, balayé les idées reçues qui parfois le troublent et aussi, en tout cas nous l'espérons, pris du plaisir à fouiller un thème, à choisir leurs intervenants et à éprouver une certaine fierté à être diffusée sur notre antenne.
Interclasse saison 4, c'est un truc de ouf.
Let's go
sur France Inter.
Dans ce grand chantier, comment vous vous préparez le matin? Est-ce que vous vous habillez féminine ou plus garçon pour vous sentir à l'aise auprès des garçons?
Je me maquille quand j'ai envie de me maquiller. Je m'attache les cheveux parce que c'est plus pratique et que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir les cheveux attachés. Je m'habille comme je veux.
Alors ce soir, ils sont 24 habillés comme ils veulent aussi, dont 5 autour de cette table du lycée polyvalent Édouard Branly de Créteil, accompagnés de 2 professeurs et de 2 journalistes. Bienvenue donc à la seconde C.
Ouais !
Avec vous donc vos professeurs, 2 de vos professeurs en tout cas, Clotilde Himmel, bonsoir.
Bonsoir, je suis professeure d'histoire-géographie de cette dynamique et incroyable seconde C.
Incroyable, pourquoi incroyable ?
Incroyable par leur investissement, par leur mobilisation, avec des hauts et des bas évidemment, mais souvent là pour terminer le travail quand il fallait.
Ils bossent en tout cas.
Merci à eux.
Sophie Hervas, bonsoir.
Bonsoir, je suis donc professeure documentaliste et j'ai accompagné ma collègue Clotilde et la classe de seconde C sur ce projet qui est très chronophage mais vraiment très sympathique.
Il y a toujours donc un service de documentation pour
dans,
le...
Oui, en effet, dans tous les établissements scolaires, lycée comme collège. Donc on a une double casquette, les profs doc. On a à la fois un côté gestionnaire, puisqu'on gère évidemment le centre de ressources et les abonnements, et un côté pédagogique où on apprend aux élèves non seulement à faire des recherches documentaires, mais aussi à leur proposer des projets pédagogiques pour une ouverture culturelle qu'ils n'ont pas forcément.
Ouais. Wafia Kenich, bonsoir.
Bonsoir.
Wafia, on se rencontre souvent dans les couloirs, mais les auditeurs ne vous connaissent peut-être pas forcément.
Non, parce que je travaille à la rédaction web de France Inter, et donc j'ai participé pour la première fois à Interclasse. Ça a été
C'était
le baptême
de l'air cette année.
Absolument. Ouais. Je tiens à saluer le travail de Sophie et de Clotilde qui ont été extrêmement présentes et qu'on portait avec les élèves, bien sûr, le projet à bout de bras.
Wafia, elle vous a bien aidé, elle a été sympa avec vous?
Ouais.
Bon, ils vont pas dire le contraire, évidemment, elle est en face de vous.
Vous pouvez, allez-y, c'est le moment.
Interclasse, c'est donc le dispositif d'éducation aux médias et à l'information de France Inter.
L'égalité des sexes.
La liberté d'expression.
La colère.
Les gilets jaunes.
Le partage.
Vivre en France.
Vivre en France.
Vivre en France.
En 2019.
Vivre en France en 2019, c'était donc le thème général pour tous les établissements de cette année. 4 thèmes se sont dégagés dans votre classe. Le handicap, les conditions de scolarisation des mineurs étrangers, le cyberharcèlement et puis donc la femme, la place des femmes dans le secteur du bâtiment. Alors vous allez nous raconter pourquoi vous avez choisi ces thèmes-là. Mais tout de suite, banlieue de vie, avec vous Fanny Léonore Crouzet.
Oli, flip, slides, tricks. Figures de skate et nonchalance des ados qui, sur leurs planches, toisent les badauds. Pour visiter Créteil, on peut commencer par là, par cette place, au pied de la mairie, à la sortie 8 du métro, arrêt Créteil-Préfecture. Elle est aveuglante quand il y a du soleil, la pierre blanche de l'esplanade des skateurs. Quelques marches plus bas, un parc, des bosquets fleuris, des bancs en bois et surtout la surface lisse du lac. 40 hectares d'eau au milieu de la ville, découvert comme ça, au tournant d'un escalier, ça apaise. En face, il y a un lycée, qui a presque les pieds dans l'eau. Et tout autour, une école de voile, un terrain de basket, des aires de jeu. Des gens qui marchent ensemble, ou qui pensent seuls. Au loin, sur la droite, on aperçoit les choux de Créteil. 10 tours rondes, de 15 étages. Des balcons arrondis, comme des pétales de fleurs. Ces choux-fleurs, comme disent les habitués, sont l'emblème du nouveau Créteil, construit par des architectes 68ards, l'imagination au pouvoir. Au milieu des skateurs, Adrien m'attend. Il est mon guide aujourd'hui pour découvrir le quartier du lac. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Alors où est-ce qu'on se retrouve là?
On va. Je vais vous emmener près du lac, là-bas, là, droit devant nous. C'est un endroit que j'aime bien, particulièrement pour éviter les bruits. pour être tranquille et méditer sur nous.
Pourquoi c'est bruyant, Créteil ?
Sur l'esplanade, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de skateurs. Du coup, on peut pas trop se poser entre amis. Du coup, le lac, c'est mieux. Ça, moins de skateurs.
Bon, bah allons-y.
Let's go. Vu que j'habite juste là-bas, là, je me balade très souvent autour du lac. C'est une de mes balades préférées. On peut se poser, en même temps, on peut regarder le paysage avec le calme, le bruit, les cygnes sur le lac, voilà.
C'est contemplatif.
Voilà, ça.
Tu te balades tout seul en général ?
Alors, non, on fait tout le lac avec. J'en fais avec des amis des fois. Tout seul, oui, ça m'arrive, mais c'est très rare, ou sinon avec ma famille.
Tu me disais que Créteil est une ville très sportive. Aujourd'hui, tu as choisi de me présenter un ami, et votre point de rencontre, c'est un peu le sport.
Donc, la personne que je vous présente aujourd'hui, il s'appelle Alexandre, et on s'est rencontrés au handball, en entraînement de U15.
Et bonjour Alexandre.
Bonjour Fanny. Créteil au handball, c'est une équipe assez forte. Elle est descendue, mais là, elle va remonter en Ligue 1. Je pense qu'elle va faire un bon championnat pour l'année prochaine. Et vive Créteil.
Et vous parlez beaucoup de sport entre vous, tous les deux ?
Que vu qu'ils supportent Lyon et moi Paris, on parle de certains résultats. Quand ils perdent, je charrie.
Et dans votre vie, qu'est-ce que ça occupe comme place, le sport ?
C'est une place importante parce qu'on peut se défouler au sport. On pense pas aux problèmes forcément de la semaine, aux mauvaises notes qu'on a eues au lycée ou au collège. On est sur le terrain, on est concentré sur le terrain et on pense au moment présent en fait au sport. Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu es heureux toi à Créteil ?
Je suis très heureux à Créteil. Je suis très heureux d'avoir ce lac, d'avoir ce lycée.
Et tu vas y rester plus tard ?
Je pense pas.
Pourquoi tu penses pas ?
Parce que je veux rentrer dans un métier où ça va me demander de bouger.
Quel métier ?
Gendarme. Ça s'est accentué avec les attentats, je sais pas pourquoi.
Pourquoi pendant les attentats, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a eu beaucoup de morts, on l'a vu au Bataclan. Le sens de l'honneur, protéger les gens contre les gens qui sont contre leur état d'esprit.
Donc pour toi, protéger les gens, c'est aussi contribuer à une ouverture d'esprit ?
Ouais. Il y en a, ils sont l'esprit fermé, très fermé. On peut le voir rien qu'en politique. L'immigration, par exemple, c'est un sujet tabou et il y en a qui veulent l'interdire. C'est dramatique. Parce qu'on est tous humains et on a tous droit à un monde meilleur.
Quel joli reportage, Adrien. Alors, tu veux faire ça, tu veux devenir gendarme.
Ouais.
Ouais, c'est une vocation chez toi.
Oui.
Ouais. C'est un métier difficile.
Oui, c'est très difficile.
Pour parler, est-ce que vous avez reconnu, vous qui ne vous êtes pas baladé micro en main à Créteil avec Fanny, est-ce que vous avez reconnu l'endroit où vous habitez, ce lac, il a l'air drôlement sympa, non ?
Oui.
Ouais. Vous y allez souvent ?
Oui.
Ouais. Vous avez le droit de vous baigner dans ces bassins ?
Non,
c'est interdit. Même pas de mettre les bouts des doigts de pied. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de verdure à Créteil.
Oui, oui. C'est ça.
C'est important ?
Notamment,
Benjamin.
Oui, c'est important, mais la nature à Créteil, elle est essentiellement regroupée autour de ce lac. Ce lac, c'est un point de rendez-vous.
Interclasse. Sur France Inter. Premier reportage, donc, on a hâte d'entendre, c'est sur le handicap, et vous nous direz comment vous avez travaillé, pourquoi vous avez choisi ce thème.
Nous avons rencontré Raled, âgé de 46 ans. Il vit depuis 4 ans en fauteuil roulant motorisé. Habitant dans le Val-de-Marne, Raled estime que la ville où il habite, et dont il ne souhaite pas donner le nom, pourrait faire beaucoup mieux pour permettre la mobilité des personnes handicapées.
La mobilité en Ile-de-France, c'est, pour la personne handicapée que je suis, c'est un challenge tous les jours. Ma ville fait des efforts pour mettre en accessibilité le centre-ville. J'ai la chance d'avoir un bus juste en bas de chez moi. Mais dès qu'on sort du centre-ville, il y a certaines correspondances que je ne peux pas faire parce que la voirie, les trottoirs ne sont pas à une hauteur suffisante pour que la rampe d'accès qui est fixée au bus puisse se poser au sol. Aujourd'hui, j'ai un accès limité à la ville que j'habite.
Être en fauteuil signifie pour lui renoncer au lieu qu'il fréquentait auparavant.
Moi, j'étais un routard. C'est-à-dire je prenais beaucoup ma voiture et je voyageais énormément. J'aimerais pouvoir refaire tous ces trajets que je faisais en voiture ou à pied à l'époque. J'aimerais me balader, par exemple, sur les quais de Seine. J'aimerais aller visiter des monuments. J'aimerais prendre un café dans certains lieux. J'aimerais manger dans certains restaurants. Mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses pour que, lorsque je me réveille le matin, je ne me pose pas la question de savoir si je vais pouvoir aller à tel ou tel endroit.
Certaines villes ont décidé d'agir en profondeur pour la mobilité des personnes handicapées. C'est le cas de la ville de Créteil, qui a mis aux normes la quasi-totalité de ses arrêts de bus et la plupart des accès indispensables aux personnes handicapées. Soraya Cardinal est adjointe à la mairie de Créteil sur ce dossier.
Alors, déjà, il faut une volonté. Rechercher des financements pour réaliser les aménagements nécessaires. On s'appuie sur les associations, parce que si on fait tout seul dans son coin, on peut se tromper. Moi, j'ai d'autres exemples à l'échelle d'autres villes du département, où si on ne concerte pas les personnes, eh ben, on va dépenser de l'argent, et les gens vont dire, ah ben, ce que vous avez fait, ce n'est pas fonctionnel. On a aussi l'état d'esprit de la ville, comment elle met en œuvre l'accueil de ses citoyens handicapés. Donc, on voit bien que le handicap, c'est vraiment une question qui traverse toutes les politiques d'une ville pour pouvoir garantir cette inclusion des personnes en situation de handicap.
Il existe bien des camionnettes à disposition des personnes handicapées, mais leur nombre reste très limité et leurs réservations saturées plusieurs semaines à l'avance. Le retard pris dans l'accès au transport pour les handicapés est énorme, estime Nicolas Méry de l'association APF France Handicap.
Une des principales revendications de l'APF France Handicap, c'est bien de rendre tous les transports publics ordinaires accessible. Sauf cas d'impossibilité technique avérée, ça c'est évident. Il faut quand même rappeler qu'on est des gens responsables, on ne demande pas d'avoir 100% des stations de métro accessibles. Mais si déjà on pouvait faire quelque chose d'intelligent en rendant les stations de métro des gares parisiennes accessibles pour créer un maillage, ça serait déjà quelque chose d'intéressant, une belle marge de progrès.
En n'ayant pas un accès normal au transport, au lieu de formation, ou pire encore, au lieu de santé, renoncer à se déplacer a de graves conséquences pour les personnes handicapées.
On a une donnée épidémiologique qui quand même fait froid dans le dos, c'est-à-dire que le taux de prévalence du cancer du sein pour les femmes en situation de handicap est deux fois supérieur à celui des femmes valides. Pourquoi ? Parce qu'on a un phénomène de renoncement aux soins, puisque du coup, les centres de dépistage et les mammographes ne sont pas accessibles. Donc du coup, les femmes ne se font pas dépister, et donc du coup, elles déclenchent plus de cancers du sein. Donc ça, c'est une donnée, par exemple, précise, qui illustre bien que du coup, les personnes sont discriminées à plein d'égards, et notamment sur le plan de la santé.
La dernière loi de 2005 sur le handicap prévoit un accès à tous les services publics, commerces et transports d'ici à 2024. Pour toutes les personnes handicapées, des sanctions et amendes sont prévues par la loi. Le compte à rebours a déjà commencé.
Et merci à Alexandre Andrieux, Lucien Pau, Valérie Aristakésian, Younes Moidinouf, Lisa Pan, Benjamin Alves et Lucas Beuve, tous donc du lycée polyvalent Édouard Branly de Créteil. Et ils ont travaillé sous la houlette de Laurent Kramer, qui est journaliste ici même à la rédaction de France Inter. Alors, il y en a deux qu'on n'a pas encore entendus puisqu'ils viennent de s'installer à la table, c'est Alexandre et Younes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment déjà vous avez choisi ce sujet-là ? Alexandre.
Au départ, moi, j'ai ma tante qui est en situation de handicap, qui je l'aide à chaque fois pour se déplacer et tout. Et on sait que les problèmes pour se déplacer aux handicapés, tout le monde connaît ces problèmes. Mais personne essaye de vraiment les changer.
Benjamin, on a entendu donc Khaled, qui est donc en fauteuil roulant. Déjà, est-ce qu'on n'a pas quelquefois un peu peur, une appréhension de parler à quelqu'un qui est handicapé, qui est en situation de handicap?
On essaye de mesurer nos mots. On veut pas le blesser dans notre parole. Enfin, si une phrase est mal tournée, déplacée.
Younes?
Pour ma part, c'est vrai qu'au début, j'étais pas trop. Le projet m'intéressait pas
T'étais
trop.
T'étais pas trop fan, ouais, ouais.
Mais au fur et à mesure, j'ai pris du plaisir à faire des recherches, à parler au micro aussi dans l'interview.
Est-ce que vous estimez, là je m'adresse aussi à Alexandre et bien sûr à Younes, est-ce que vous estimez qu'on a des devoirs vis-à-vis des personnes en situation de handicap ?
Oui, on a toujours des devoirs envers les personnes parce que ils ont des problèmes et on est obligé, on doit les aider. Et comme il disait Raled, pour faire un simple voyage, par exemple à Paris, il faut qu'ils fassent une énorme organisation.
Sur le devoir, le simple fait d'être informé de leurs problèmes, je pense que c'est déjà un énorme devoir.
Vous avez des jeunes handicapés dans votre établissement ? Il y en a ?
Oui.
Ouais.
Mais pas physique, pas moteur. Je pense que c'est plutôt mental.
Mais dans leur classe, parce que c'est pas dans votre classe, hein, c'est dans d'autres classes. Ils ont des copains. Les profs, là, j'imagine, ont un rôle à jouer, un peu de médiateur.
C'est pas toujours évident parce que ils peuvent pas les traiter comme les autres, parce qu'ils ont des problèmes mentaux, faut les aider à comprendre. C'est pour ça qu'il y a des AVS qui les aident à s'intégrer dans la classe. Mmh. Et ils ont toujours des amis.
Alors ça, c'était un sujet, on va dire, bien sérieux, bien lourd. Un petit peu de légèreté en cette soirée d'été avec une chanson que vous avez choisie, un groupe que vous connaissez. Lucien, je vais peut-être te laisser le soin de le présenter.
Oui. Allez, on écoute. Konkalmat, Daddy Yankee, and Snow.
Vous avez le droit de vous lever et de danser.
Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. Voy como ella nos menea. Me besa pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam dam dam. De guayarte mami. Ese ram pam pam yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality. Vivete la película flotando.
Never left for a tally. You said that I missed me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance hall in a nation. You never know, say that I missed me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching at the top.
Bon, Lucien, tu l'as annoncé, tu vas dans notre jargon, on dit ça désannoncé, maintenant tu peux nous dire ce qu'on a écouté.
Alors, c'était Konkalmat, Daddy Yankee and Snow.
Je voudrais quand même que vous nous disiez pourquoi vous aimez ça les uns les autres. Adrien,
ça,
ouais.
Ça réveille.
Ça réveille ?
Dès le matin, ça réveille, c'est bien.
Tu sais que Daddy Yankee, c'est un vieux. Tu
oui,
sais l'âge qu'il a ?
Non.
Il a 40 balais, 40 ans.
Elle est bien sa musique. Ah, je m'en moque de l'âge tant qu'elle est bien sa musique.
Interclasse.
Ça va, ça se passe.
Sur France Inter.
Deuxième reportage de l'émission donc des élèves du lycée Édouard Branly de Créteil sur les conditions de scolarisation des mineurs étrangers.
Dans le couloir de notre lycée, nous avons rencontré Armel qui vient du Burkina Faso.
Je suis parti du Burkina Faso à l'âge de 16 ans et demi.
Il est en France depuis 5 ans. En arrivant en France, Armel a passé des tests à la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers de France Terre d'Asile.
C'est une évaluation en fait, pour voir si le jeune il est mineur ou pas. On te pose des questions, ton parcours, comment tu es venu en France, pourquoi tu as quitté la France et comment il est ta famille en Afrique et tout. Si c'est bon, en fait, le juge va te placer dans un foyer mineur ou dans une famille d'accueil.
Après évaluation, il a intégré le lycée Gustave Eiffel à Paris. nous lui avons demandé s'il était bien intégré dans la classe.
J'étais tout gentil. Je me suis présenté et rapidement, je me suis intégré à la classe parce qu'on avait tous presque les mêmes centres d'intérêt. En fait. Si je ne comprends pas, je peux demander, genre en anglais, parce que ça n'a jamais été mon truc. La suite pour moi, en fait, c'est là je vais faire mon BTS. Je compte travailler, en fait, parce que là où j'ai les entreprises où je suis passé faire mes stages, je peux travailler avec eux, en fait. Peut-être un jour, j'irai travailler dans mon pays, mais pour le moment, je vois mon avenir ici.
Pour en savoir plus sur la scolarisation des mineurs migrants au quotidien, nous avons rencontré Émilie Pierrard, responsable d'un foyer France Terre d'Asile à Créteil. 20 garçons âgés de 16 à 18 ans y sont hébergés pendant 2 ans. Mais cet accueil ne se limite pas au logement.
J'ai vu que vous aviez une salle de cours. Est-ce que vous donnez des cours aux jeunes migrants ?
Oui, tous les jours, ils ont classe de 9h30 à 17h. Sauf le mercredi.
Dans ce centre de Créteil, l'objectif est d'aider ces jeunes migrants à obtenir un emploi rapidement. C'est pourquoi Émilie Pierrard et ses équipes proposent une formation par apprentissage.
Un grand nombre des jeunes arrivent à 16 ans, 16 ans et demi, donc plus d'obligations de scolarisation. Très peu de temps avant d'arriver à 18 ans, donc pour être régularisés. Voilà pourquoi les formations en apprentissage sont vraiment un tremplin pour eux pour pouvoir s'insérer. Donc ils ont des cours de français, mais aussi des cours d'histoire géo, de sciences, de mathématiques, comme on peut avoir dans un lycée classique, mais vraiment adapté à leur niveau et à leurs difficultés, parce que ce sont des jeunes qui n'ont pour la plupart pas été scolarisés dans leur pays. Donc ils doivent aussi apprendre à lire, à écrire, tout ça dans un temps très limité, puisqu'ils arrivent à l'âge de 16 ans. Et l'idée, c'est qu'à 17 ans, 17 ans et demi, ils entrent en apprentissage pour, à 18 ans, pouvoir demander un titre de séjour.
En 2018, 40 000 mineurs isolés étrangers sont arrivés en France, explique Aurélien Attaché, député du Val d'Oise et auteur d'un rapport sur l'intégration des migrants.
Que vous soyez dans un logement ou pas, dehors, quoi, en situation de rue, ou le plus souvent, quand même, heureusement, hébergé dans des centres, dans des hôtels ou autres, la commune où vous êtes doit vous scolariser.
Il précise qu'un mineur migrant doit normalement être pris en charge par le conseil départemental puis scolarisé.
La différence entre un jeune français et un jeune mineur isolé pour sa scolarisation ? Normalement, il n'y en a pas de différence. En France, la scolarisation, elle est pour tout le monde. Donc normalement, il n'y a pas de différence. N'importe quel jeune en France qui n'a moins de 16 ans doit être scolarisé. C'est une obligation et il faut défendre ça. C'est un principe d'égalité, quelle que soit la situation du jeune, qu'il soit français, pas français, qu'il ait un logement, qu'il n'ait pas de logement, qu'il ait sa famille ou qu'il n'ait pas sa famille.
Lors de ce reportage, nous avons écouté l'histoire de plusieurs mineurs migrants de notre âge. La difficulté de leur parcours, les épreuves qu'ils ont traversées, parfois seuls pour quitter leur pays, nous ont permis de réaliser la chance que nous avons.
Merci à Djelloul Derni, Victor Dumonté, Saïdia Laroussi, Nissima Louka, Daouda Diko, Yaroslav Dreglea, Elisa Dessouza et Mamadou Traoré. Djelloul Derni, c'est donc toi le porte-parole du groupe. Comment est-ce que vous avez donc procédé, travaillé, comment vous avez pris des contacts, de quelle manière ?
Ben, on a pris des contacts aussi dans le lycée. On a pu contacter un mineur migrant.
Donc il y en a dans votre lycée, dans votre établissement ?
Oui, il y en a.
Et comment est-ce qu'ils vivent ? Vous savez comment ils vivent ? Ils vivent dans des familles, dans des foyers ?
Il y en a qui vivent dans les foyers, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a aussi qui doivent dormir dehors. Pardon.
Et le lendemain matin, ils viennent en classe ?
Ouais.
Et le soir, quand vous vous dites au revoir, vous savez qu'eux, ils vont sous une tente ? Ils vont où ?
Ouais, c'est ça. Ben, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. En fait, après, ils n'ont pas beaucoup de choses à faire et ils vivent dans des conditions un peu misérables.
Saïdia, tu as rejoint la table. Toi aussi, tu as travaillé sur ce sujet-là.
Quand ils m'ont raconté leur histoire, ça m'a touchée. Parce que parfois, ils dormaient dans la rue, comme il a dit Djelloul. Ils pouvaient dormir dans des chantiers. Ils pouvaient se faire chasser par la police. Et les foyers en question, parfois, ils n'avaient pas des places. Donc, on les jetait à la rue. Ils pouvaient rester 2-3 jours dehors jusqu'à ce qu'on leur trouve une place.
Est-ce que vous pensez qu'on a des devoirs vis-à-vis d'eux ? C'est-à-dire qu'il faut leur ouvrir les portes, que ce soit les portes d'un foyer, que ce soit... Il y a des associations, malgré tout, avec des familles qui les accueillent.
Oui,
parce que... Un petit peu, pas assez, mais...
Oui, parce qu'on est tous humains. Alors, on devrait tous les aider.
C'est difficile, non, quelquefois, de se mettre à la place de l'autre ?
Oui. Hein ? Très, très difficile.
Armel, tout à l'heure, ce qu'il a dit, moi, ce qui m'a frappé, c'est de dire... Peut-être que je retournerai un jour dans mon pays d'origine, mais mon avenir, il est ici. Djelloul.
Il a peut-être raison, parce qu'il n'a pas beaucoup de chance dans son pays.
Ici, on peut lui offrir un bon avenir, mais ça reste à voir encore, parce que la scolarisation, c'est assez difficile. Ils ne parlent pas français et c'est assez dur pour eux.
Mais beaucoup, on l'a entendu, ne sont pas scolarisés, n'étaient pas scolarisés dans leur pays d'origine. Vous, j'imagine qu'il y a des jours où vous allez à l'école à reculons. Est-ce que quand même vous diriez que c'est une chance de pouvoir aller à l'école?
Oui. Ouais. Oui, c'est une chance.
C'est une chance parce que dans certains pays, à notre âge, on travaille. Il y a des gens qui travaillent déjà. Donc après, on se dit qu'on a peut-être une meilleure vie face à eux. Voilà.
Vous, ici, autour de la table, vous êtes tous nés en France?
Oui.
Et vos parents, vos grands-parents sont nés en France? Parce qu'il y en a peut-être qui ont été dans cette situation-là, d'arriver dans un pays étranger. Daouda, tu as des choses à dire là-dessus?
Bah déjà, je suis arrivée en France il y a un an.
D'accord.
Donc et je ne suis pas née ici.
Tu es née où?
Je suis née au Mali.
Tu es née au Mali?
Oui. J'ai appris le français grâce aux écoles françaises. En Libye et en Amérique aussi.
C'est-à-dire, tu as vécu?
J'ai fait peut-être 4 ans en Libye et 4 ans en Amérique aussi.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que c'est tes parents qui ont décidé donc de venir vivre en France?
Oui. C'est grâce au travail de mon père, parce qu'il est diplomate.
Ça te plaît, la France?
Oui, pour le moment.
Et tu vois ton avenir ici?
Non, parce que j'ai pas le choix. Je vais devoir retourner après.
Tu vas retourner où?
Au Mali.
Au Mali?
Oui.
Et est-ce que vous avez l'impression, les uns et les autres, que d'apprendre, de lire, de s'ouvrir aux autres, de se laisser un petit peu pénétrer par la pensée des autres, ça aide au fond à être un petit peu moins sévère, un petit peu plus tolérant dans la vie? Je vois Saïdia qui sourit.
Oui, ça permet d'être tolérant et ça nous apprend en quelque sorte la diplomatie, des choses comme ça.
Ah, tu vois, Daouda, c'est la diplomatie au sens général. Benjamin, quel est ton avis là-dessus?
Moi, je trouve ça aide à réfléchir.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, si vous connaissez Angèle, c'est une chanteuse.
Ouais.
Oui. Alors, elle chante une chanson qui est assez terrible, dont les paroles sont assez terribles, mais qui sont en rapport, ces paroles, avec le troisième reportage qu'on va écouter tout à l'heure. C'est « Balance ton quoi ».
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire en où je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Aller te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Poli pour la télé, mais va te faire.
C'était Balance ton quoi, Angèle. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. Mais je suis plus qu'un animal. Balance ton quoi, balance ton porc, vous connaissez, Adrien?
Oui, je connais. C'est un mouvement qui a été créé à la suite, après le festival de Cannes, parce qu'il y a un producteur qui a été condamné pour harcèlement sexuel.
Des femmes qui en ont dit qu'elles en avaient marre.
Voilà, ouais. Et ça s'est propagé sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est pas que les stars qui écrivent. C'est les personnes qu'on peut croiser.
Vous pensez qu'elles ont eu raison, ces femmes, qu'il leur a fallu du courage pour le faire?
Oui. Faut du courage, parce que des fois, on va pas forcément porter plainte tout de suite. On a peur, on a peur des représailles, surtout. Voilà.
Est-ce que, alors, ces plaintes pour harcèlement, ça pose la question du harcèlement. Ça commence quand, un harcèlement?
À partir du moment où c'est répétitif.
Une fois, ça va?
Non, mais à partir du moment où c'est la personne n'est pas...
Ça commence à devenir lourd pour la personne concernée.
Oui.
Si la personne n'est pas, entre guillemets, consentante par rapport à la conversation ou par rapport aux gestes et aux actes, ça commence à partir de là. Et si ça commence à être répétitif, ça commence à faire beaucoup trop.
Ça pose la question du consentement.
C'est ça.
On va y revenir dans quelques instants.
Interclasse,
saison 4,
sur France Inter.
Troisième reportage, donc certains parmi vous ont choisi de s'intéresser au cyberharcèlement.
Aujourd'hui, le cyberharcèlement touche tout le monde, d'une secrétaire d'État à une journaliste.
C'est une affaire qui résume à elle seule le harcèlement version numérique.
Nadia Dame a compté, elle a reçu plusieurs milliers de messages haineux.
Nadia Dame, 40 ans, est journaliste à Arte. Il y a 2 ans, elle a dénoncé dans une chronique une campagne de haine contre 2 militantes féministes. À la suite de quoi, pendant plusieurs mois, elle a été victime de cyberharcèlement.
Sur à peu près tout ce que... Internet peut compter d'espaces de discussion, donc sur Twitter, sur Facebook, sur une plateforme qui s'appelle Discord, sur le forum jeux vidéo 1825, c'est là où tout a commencé, sur mes mails, sur mon compte copain d'avant, sur LinkedIn, partout.
Nadia Dame a porté plainte et ses cyberharceleurs se sont retrouvés au tribunal.
On a vu que vos harceleurs ont été condamnés par la justice. Trouvez-vous que leur condamnation est juste pour leur crime ?
C'est pas des peines très lourdes. Après, j'aime pas l'idée de contester une décision de justice. C'est voilà, la justice a été rendue. Donc moi, c'est tout ce que je voulais voir en fait, c'était que ces mecs-là soient au tribunal, qu'ils aient des convocations, qu'ils aient eux-mêmes peut-être des petits soucis de sommeil, qu'ils soient pas super tranquilles. Après, pour le reste, oui, moi, c'est sûr que s'ils avaient pu faire 3-4 jours de prison, j'aurais pas détesté pour le petit goût de la vengeance que ça peut avoir. Mais en même temps, je suis pas non plus dans cette optique-là, j'ai pas envie de faire de la vie de ces mecs-là un enfer comme ils ont fait de la mienne un enfer. Faut pas être dans ces logiques-là, je pense.
Aujourd'hui, Nadia Dame attend le procès en appel de ses harceleurs. Elle refuse de donner des conseils aux victimes. Elle préfère s'adresser à leur entourage.
Ce qu'on a fait beaucoup avec moi, on me dit « Mais éteins donc ton ordinateur et puis ça va passer. » Alors, on sait très bien que c'est pas parce qu'on éteint son téléphone ou son ordinateur que le harcèlement s'arrête. Donc, je suis toujours un peu méfiante avec les gens qui ont des conseils à donner aux cyberharcelés. En revanche, il y a un conseil fort à donner à l'entourage des personnes qui se font cyberharceler, c'est d'être extrêmement présente. C'est-à-dire que le but du harcèlement, de la persécution en général, c'est de faire en sorte que la personne se sente hyper seule, de l'isoler, de l'ostraciser et de la rendre vulnérable. Et effectivement, dans ces moments-là, et notamment quand il est 2h du matin et qu'on fait cette bêtise d'aller voir son téléphone et de regarder les messages qu'on a et qu'on lit « Tu vas mourir », là on se sent effectivement énormément seul et fragile et vulnérable. Et c'est là qu'il faut opposer à cette démarche de groupe et de meute des harceleurs une autre démarche de groupe qui, elle, est positive, c'est-à-dire faire corps autour de la personne qui est harcelée, l'entourer, lui demander comment ça va, lui parler d'autres choses, parce que parfois, on a aussi envie de parler d'autres choses, mais de ne pas la laisser tomber, quoi.
La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a elle aussi été victime de cyberharcèlement.
Je trouve que c'est assez insupportable de recevoir des milliers d'insultes, de photomontages dégradants, de menaces de mort, d'injures, de menaces de viol, etc. tous les jours. Et j'invite chacun à saisir, à signaler les contenus à Twitter, à Facebook, à YouTube, au forum, et à déposer des plaintes, parce que de plus en plus, maintenant, les policiers sont formés pour recevoir ce type de plaintes et pour faire en sorte que ça reste pas impuni.
La ministre et le gouvernement travaillent aujourd'hui sur une loi qui visera précisément les réseaux sociaux.
Parce que je crois qu'il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a celui des internautes. On n'a pas le droit de crier une insulte sexiste ou une menace de mort à quelqu'un dans la rue. C'est interdit, mais on n'a pas le droit non plus sur les réseaux sociaux, d'une part. Et d'autre part, il y a une responsabilité des plateformes qui les hébergent et qui les laissent en ligne. Donc là, c'est une loi sur laquelle on est en train de travailler.
Aujourd'hui, la loi prévoit 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende à l'encontre des cyberharceleurs.
Merci à Jordan Lott, Chris Adancourt, Terna Koulibaly, Salou Sako, Rani Pereira, Johan Jeuny, Driss Marzouk pour ce reportage. Ils ont été accompagnés par Wafia Kenich du service web de France Inter. Driss, t'es le chef. À toi de commencer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce et comment vous avez choisi ce sujet? Vous êtes porté sur Nadia Adam.
En fait, c'est Wafia qui nous a mis en contact et qui a organisé l'interview. Et du coup, on a pu lui poser des questions et après, on a pu faire une interview correcte.
Wafia, ça s'est passé comment?
C'était un grand moment parce que notamment toi, Driss, qui a fait cette interview de Nadia Adam, on était dans un petit studio de France Inter, hein, puisque Interclass, on fait venir les élèves à la radio. Et donc là, je voyais le visage des élèves qui se décomposait au fur et à mesure que Nadia Adam expliquait ce qu'elle avait vécu, ce qu'avait été cet enfer du cyberharcèlement. Et je pense que pour les élèves, ça a été cette dimension réelle du harcèlement virtuel. Un des messages qu'on garde d'Interclass, c'est qu'il y a une vraie réflexion et une vraie envie de penser.
Chris, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça te paraît tout à fait logique, mais c'est assez récent, que la loi sanctionne?
Je trouve ça logique parce que c'est des méfaits qui sont très condamnables et qui sont très méchants sur les réseaux. Parce que les réseaux, c'est quelque chose qui doit servir pour communiquer, s'informer.
Driss.
Parce que surtout sur les réseaux sociaux, vu qu'on n'est pas, vu qu'on n'est pas face à face directement avec la personne, ça peut aller très vite. Les mots méchants, ils sont vraiment lâchés très facilement parce qu'on pense que c'est sans conséquence justement parce qu'on n'est pas face à face à la personne et qu'on peut se dire que même si c'est une personne hyper baraquée ou juste une petite fille, elle peut pas vous toucher parce que justement elle est pas là.
Là aussi, c'est une question de prise de conscience.
Ça demande aussi une grande maturité. Puis aussi, c'est du respect mutuel parce que. Moi, par exemple, si j'étais une fille, j'aimerais pas qu'on me siffle à chaque fois que je passe le trottoir ou un truc comme ça.
Jamais il ne pourra vous arriver d'être dans la peau d'un harceleur, les uns et les autres. Vous vous direz toujours stop avant.
Bon, pour ça, il faut savoir se maîtriser.
Oui, Adrien.
C'est là où, comme Driss a dit, le respect, mais avant le respect, il y a la maîtrise de soi-même aussi. Parce que si on se maîtrise pas, on peut engendrer des cas.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Faut être vigilant à ce qu'on poste.
Et réfléchir une fois de plus, réfléchir.
Aux actes avant de poster.
Chris, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Après aussi sur les réseaux, il y a beaucoup de filles qui mettent leur corps en valeur. Il y a qui après se plaignent de recevoir des messages provocateurs de certains garçons.
Ce serait bien que sur ce sujet-là, on entende un point de vue féminin, non? Saïa, qu'est-ce que tu en penses?
D'accord, et pourquoi alors sur les réseaux, les garçons, ils se mettent torse nu, en caleçon, c'est de la provocation aussi, hein?
Bah d'accord.
Mais en fait, vous êtes là, vous dites, pourquoi ce serait normal pour vous et pas normal pour les filles?
Est-ce que vous ne trouvez pas aussi que sur les réseaux, il y a une hypersexualisation? Les filles sont très filles, les mecs sont très mecs. Ouais. Après tout, on peut peut-être avoir d'autres relations un petit peu différentes dans la vie, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais il y a certaines filles, elles postent des photos d'elles, c'est pour, par exemple, se faire repérer par des marques, par des agents. C'est certainement pas pour les garçons. Après, s'il y en a, elles le font pour les garçons, c'est qu'elles le veulent, mais qu'ils n'aillent pas dire oui, c'est de la provocation. Parce qu'après, c'est les garçons qui laissent les messages dans les commentaires. En mode waouh, mignonne, waouh, bête de corps, tu vois.
Si on écoutait Cheyran, qu'est-ce que vous diriez là? Sympa, chouette, on aime, qu'est-ce que vous diriez?
Oh, il est cool.
Il est cool? Shape of You, okay. C'est sorti en 2017. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and
my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. When we came and we let the story begin, we're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my whole into, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Ed Sheeran, Shape of You, vous avez entendu I'm love with your body, c'est-à-dire finalement c'est j'aime ton corps. Fait. Est-ce que ça, Lucien, par rapport à ce qu'on a, aux propos qu'on a tenus avant le disque, est-ce que ça te fait réagir?
Les filles, elles ont le droit d'en mettre des maillots de bain,
des jogging, des choses pour aller faire du sport.
Des habits qui sont assez courts. Mmh. On ne va pas mettre des pantalons qui sont assez longs pour cacher une peau physique. Le plus important, c'est pour la santé du corps, quoi.
Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui vous fait réagir.
C'est ça.
Interclasse.
C'est de la bombe
sur France Inter.
Quatrième et dernier reportage de cette soirée. On va parler des femmes, mais sous un autre angle, celui de la profession, la place des femmes dans le secteur du bâtiment.
Le travail de chantier, c'est pour les hommes. Les femmes ne sont pas assez fortes pour ce type d'emploi.
Le métier est trop pénible. Le BTP est un milieu masculin.
Les clichés ne sont pas rares quand on parle des femmes et du BTP. Pourtant, selon la Fédération française du bâtiment, la féminisation du BTP est en marche. 12% des salariés seraient aujourd'hui des femmes. Nous nous sommes rendus sur le chantier de l'extension de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Corentin Pizalis est conducteur de travaux. Casque de protection sur la tête, il nous guide à travers le labyrinthe de béton.
Ici, on est à l'entresol 1, donc c'est le niveau des blocs opératoires. C'est pour ça qu'on a des grosses structures métalliques cylindriques en haut.
Sur ce chantier, on ne croise aucune femme ouvrière.
J'ai une question. Avez-vous déjà vu ou rencontré des femmes ouvrières sur d'autres chantiers ?
Non, non.
On lui a demandé pourquoi, selon lui, elles étaient absentes.
C'est plus ou moins la nature du bâtiment qui a toujours été dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'on a toujours été habitué à travailler comme ça, mais aujourd'hui, on le voit peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, et c'est bien parce que ça amène un côté nouveau, et il y a toujours quelque chose à tirer de la diversité.
Parmi ces nouvelles recrues, Lisa Meline, 28 ans, conductrice de travaux, vient nous parler de la place des femmes dans le bâtiment.
Madame Ameline, depuis que nous marchons, nous voyons que des ouvriers. Comment vous vous sentez par rapport à ça ?
Dans mon métier, ça me pose pas ou très très peu de problèmes au quotidien. Après, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a des compétences... Enfin, tous les métiers peuvent être réalisés par des hommes ou et des femmes. Et c'est dommage, effectivement, d'avoir que des hommes.
Régulièrement, Lisa Meline se rend sur le chantier pour constater l'avancée des travaux et échanger avec ses collaborateurs masculins. Détail important dans les rapports femmes-hommes, ici comme ailleurs, l'habillement.
Dans ce grand chantier, comment vous vous préparez le matin ? Est-ce que vous vous habillez féminine ou plus garçon pour vous sentir à l'aise auprès des garçons ?
Alors là, je suis en chaussures de sécurité puisque nous sommes sur un chantier. Je suis en pantalon jean avec une ceinture, c'est mieux. Et puis un t-shirt et puis le casque, bien sûr, le casque, comme nous tous. Je me maquille quand j'ai envie de me maquiller. Je m'attache les cheveux parce que c'est plus pratique et que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir les cheveux attachés. Je m'habille comme je veux.
Lisa Meline nous explique qu'elle se sent bien dans ce métier. Nous lui avons demandé si elle avait déjà été confrontée à des remarques sexistes.
Plus on est jeune, plus on a de réflexion. Des insultes, non, pas jusque-là. Des remarques, oui. Des moments compliqués, oui. Mais c'est quand même l'extrême minorité et c'est très très rare.
Avec l'expérience, elle a appris à gérer ce type de situation seule.
L'essentiel, c'est de savoir les identifier, de savoir y mettre un arrêt et éventuellement solliciter les sanctions qui vont derrière. Que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans n'importe quel secteur, c'est pas des attitudes normales. Si je quitte le bâtiment alors que j'aime ça pour des remarques... Mais c'est laisser ces personnes gagner, en fait. Et au contraire, c'est pas moi qui dois partir, c'est eux.
Lisa Meline peut compter sur le soutien de son entreprise.
Moi, j'ai l'avantage d'avoir une direction et une hiérarchie qui m'ont et qui, chaque femme de l'entreprise, nous ont toujours soutenus et ont toujours été droits et proactifs là-dessus. Et ça, c'est normal, mais c'est surtout un plus. Parce que clairement, si on n'a pas l'appui de sa direction, on va nulle part.
Sur cette note encourageante, nous quittons le chantier avec l'espoir que le BTP, dans les prochaines années, se féminise davantage.
Bah oui, il y a du boulot. Merci pour ce reportage à Servan Yazici, à Ratiche, à Théo Debiasi, à William Castard, Nathan Delair, Ricky Jean-Simon, Adrien Poinceau, aidé par Théophile Vareille, qui fait partie de l'Institut pratique du journalisme.
Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on ne voyait pas beaucoup de femmes sur les chantiers, Nathan ?
Bah, parce que on a des projets comme ça, un métier physique, comme le métier d'ouvrier auquel il faut porter de lourdes charges, ou les préjugés qu'on a dès l'enfance, qui justement ne favorisent pas les embauches de femmes dans ce genre de métier.
Sauf que ce qu'on peut dire maintenant, alors à mon avis, ce que tu viens de dire est tout à fait juste, sauf que maintenant, avec la mécanisation des matériels qui sont plus légers, c'est beaucoup plus abordable pour les femmes. Et y a pas, là, ce n'est pas une question de force physique. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien ?
La place des femmes dans notre société est encore à revoir, parce qu'il y a plein de métiers, comme vous l'avez dit, où il y a très peu de femmes, même si ça commence à être de plus en plus féminisé. Mais il y a aussi encore beaucoup de stéréotypes par rapport aux femmes, qu'elles doivent rester à la maison, surveiller les enfants, alors que c'est pas vrai du tout.
Tu penses que c'est pas vrai ? Tu penses que vous êtes nombreux à penser ça ?
Je sais pas si on est nombreux, mais moi c'est mon opinion. Maintenant les femmes peuvent travailler comme leur mari, et je vois pas pourquoi ce serait à elles de garder l'enfant.
ou d'exercer certains métiers. Quand on pense qu'en France, par exemple, jusqu'à il y a 2 ans, une femme ne pouvait pas, par exemple, entrer dans un sous-marin, être dans un sous-marin. Les femmes, même si c'est, ne pouvaient pas être croque-mort. Pendant très longtemps, une femme ne pouvait pas être sous-officier CRS. Donc, et tous les métiers scientifiques, on voit bien, on disait il y a encore pas si longtemps, là vous n'étiez sûrement pas né, mais quand une femme pilotait un avion, il fallait pas le dire aux passagers, parce que sinon on se disait, ils vont avoir peur et ils vont pas vouloir rester à bord de l'avion. Maintenant, ça vous paraît surréaliste ça, non ?
Oui.
Oui, totalement. Ouais.
Il y a plus de macho en fait dans votre lycée, dans votre classe, dans votre génération. C'est extraordinaire.
On va pas dire qu'il y en a plus, parce qu'il y en aura toujours, malheureusement.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change ?
C'est aux garçons de changer. C'est aux parents aussi de leur de les influencer. Voilà.
C'est aussi une question d'éducation ?
Oui. On va donner aux filles plus des poupées alors qu'aux garçons, on va plus leur donner des voitures ou des trucs à bricoler alors que maintenant, il y a des catalogues pour jouets qui sont mixtes. C'est assez rare, mais ça existe.
Nathan, comment ça se passe chez toi ?
Ma mère et mon père ont tous les deux du caractère. Du coup, j'ai été éduqué, moi, je pense, de façon normale. C'est-à-dire que je pense pas qu'une femme ne peut pas faire les choses qu'un homme peut faire. Pour moi, ils peuvent tous les deux faire les mêmes choses. Moi, perso, dans ma famille, personne n'est macho. Personnellement, je connais pas justement de personnes macho. Après,
Tu me diras où tu habites, parce que on a envie de venir voir. Attention, parce que il y a deux de vos profs qui sont là. On va leur demander.
Ouais, attends, c'est rien du tout.
Il y a rien du tout parce que vous êtes que des garçons.
Ouais.
Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans la classe, il y a quand même des filles. Il y en a 5, hein, si je me trompe pas. Bon, ça fait pas beaucoup, mais quand même. Comment est-ce que ça... Là, je voudrais bien avoir l'avis de Clotilde Dimet et de Sophie Hervas. Est-ce que c'est vrai, ce qu'ils disent, qu'il y a plus du tout de machisme, plus du tout de réflexe de garçon? Clotilde Dimet, là, il n'y a pas de raison, non, c'est vous.
Je trouve que le lycée est assez représentatif de notre société. C'est-à-dire que dans la classe, vous avez des garçons qui sont extrêmement respectueux. Après, il y a sûrement des problèmes, mais les professeurs sont pas toujours au courant. Il y a un groupe qui a été mis en place de parole justement pour ces jeunes filles. Elles sont toujours un peu effrayées en arrivant au lycée parce qu'effectivement, lorsqu'on leur dit qu'elles sont 4-5 par classe, c'est normal, c'est effrayant.
Évidemment.
Et puis certaines continuent parce que malgré tout, je pense qu'elles rencontrent. Je suis pas sûre qu'elles rencontrent plus de problèmes dans ce lycée que dans d'autres lycées. Voilà, les sujets justement d'interclasse leur permettent de prendre un peu de distance et c'est un des intérêts de tous ces échanges qui ont été faits.
Sophie Hervas, c'est votre avis aussi ?
Oui, tout à fait, je partage l'avis de ma collègue. C'est évident qu'ils sont quand même encore très très jeunes, il faut maturer. Et puis l'éducation est incontournable, qu'elle soit à la maison ou ce qu'on peut leur apporter nous en tant qu'enseignante.
Est-ce que, je ne sais pas si vous savez déjà un peu si vous avez envie d'avoir une famille plus tard, si vous avez envie d'avoir des enfants, mais est-ce que vous élèverez vos garçons comme vos filles, Nathan ?
Bah moi, si un jour j'ai des enfants et que j'ai une fille, par exemple, qui me dit je veux être ouvrière ou je veux être justement électricienne ou alors mannequin, je serais totalement d'accord avec elle, elle fait ce qu'elle voudra. Du moment que c'est correct, ça va.
Lucien, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ?
Eh bien, si moi j'ai des enfants, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils veulent faire. À part des métiers qui ont des risques, comme gendarmerie ou pompier, je suis totalement contre.
Adrien, en début d'émission, tu disais que tu voulais être gendarme, en fait, dans le reportage qu'on a entendu de toi. Tes parents sont d'accord ? Ils te font confiance ?
Ma mère est au courant, voilà, et elle va me soutenir lors de mes concours.
On t'a pas encore entendu, Driss, sur la question ?
Bah, moi, je pense que ça change rien si j'ai un garçon ou une fille... Ça, j'y traiterai pareil. Par exemple, du moment qu'il fasse un métier et qu'il soit heureux, moi, ça me va.
Belle vie à vous. En tout cas, vous êtes bien partis, me semble-t-il. Merci d'être venu ce soir. Merci donc à Lauriane Toulmont qui a réalisé cette émission. Merci à Fanny Léonore Crouzet pour son aide précieuse. Merci à Jérémy Guillon qui a assuré la prise de son et à Muriel Pérez pour la programmation musicale. Et merci à vous, élèves cristoliens et cristoliennes du lycée Édouard Branly de Créteil. Ouais ! Ainsi qu'à vos professeurs. À la semaine prochaine.